Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Géopolitique est à Grenoble, se tient la 10e édition du Festival de Géopolitique avec pour sujet central les États-Unis. Regard sur la Russie en cette veille de l'élection présidentielle et sur la relation entre Moscou et les pays occidentaux, particulièrement les États-Unis. Le quatrième mandat de Poutine sera-t-il un long fleuve tranquille? Si sa réélection dimanche 18 mars ne fait aucun doute, le véritable enjeu du scrutin sera la participation. Tout va-t-il aussi bien en Russie que le pouvoir le prétend? Il y a certes les succès militaires de Moscou en Syrie notamment et les avancées stratégiques de la Russie. Quelles failles ces résultats cachent-ils sur le plan intérieur? Regard sur la Russie de 2018 et analyse de sa politique extérieure particulièrement agressive, signe peut-être d'une vulnérabilité certaine. C'est ce que nous allons voir avec nos invités Jean Radvani, géographe, professeur des universités à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages dont La Russie entre peur et défi, coécrit avec Marlène Laruelle et paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires, auteur de plusieurs ouvrages, dont Fabrication de l'ennemi, paru chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Le résultat de l'élection en Russie, Jean Radvani, il ne fait aucun doute. La question qui se pose, qui pourrait se poser, c'est pourquoi finalement ces élections. Alexei Navalny, le seul leader d'opposition, a été empêché de se porter candidat. On va donc assister à un nouveau triomphe d'un simulacre de démocratie, en tout cas une élection sans choix.
Oui, c'est l'impression qu'ont une partie des électeurs russes. En même temps, c'est pas tout à fait aussi simple, comme toujours en Russie. C'est-à-dire que, effectivement, le résultat ne fait aucun doute. Vladimir Poutine sera réélu dès le premier tour demain. Mais en même temps, c'est une campagne bizarre, puisque, effectivement, le leader, on peut pas dire le seul leader, mais le leader qui est présenté comme le principal leader d'opposition, Alexandre Navalny, n'a pas pu se présenter, pour des raisons judiciaires qui sont commodes. En même temps, il y a des candidats, et il y a des candidats d'opposition. On les a désignés comme des fantoches. C'est vrai que Vladimir Poutine, toutes ces dernières années, a eu le don de, à la fois, de modifier les règles d'enregistrement des partis, de modifier les règles d'enregistrement des candidats, de façon à, au fond, éviter un certain nombre de mouvements, de partis ou de candidats qui le gênent, apparemment, bizarrement, puisque sa cote de popularité est extrêmement élevée. Et en même temps, au cours de cette campagne, on a vu des candidats nouveaux. Le Parti communiste de Russie a présenté un homme qui n'est même pas membre du parti et qui donc dérange un peu. Madame Sobchak s'est présentée, Xenia Sobchak, qui est la fille d'un ancien de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg pour lequel Vladimir Poutine a travaillé. C'est quelqu'un qui est... Elle l'a connu enfant, on peut dire. Et en même temps, dans cette campagne, il y a eu un certain nombre de débats. Ça a permis, durant cette campagne, qui n'a pas lieu dans le sens traditionnel, Vladimir Poutine n'a pas fait campagne, mais ça a permis que, à la télévision, comme très rarement, les Russes ont pu entendre toute une série de critiques, des débats assez houleux, sur la politique intérieure, sur la politique extérieure, sur l'annexion de la Crimée, puisque Xenia Sobchak critique cette annexion pour des raisons tout à fait intéressantes. Donc finalement, voilà, c'est ça le paradoxe de la Russie. Et d'autre part, Vladimir Poutine a toujours dit qu'il respectait les règles de la Constitution. Et les règles de la Constitution veulent qu'il y ait une élection au suffrage universel du président. Je note qu'il y a beaucoup d'élections qui ont été supprimées entre-temps. Mmh. Beaucoup, la plupart des gouverneurs, la plupart des maires de province ne sont plus élus au suffrage universel, mais sont nommés par un système hiérarchique. Donc on maintient cette élection qui donc a une certaine importance. Et peut-être qu'un jour, il n'y aura plus le candidat Poutine et qu'à ce moment-là, on aura effectivement une vraie élection.
Alors, on l'a bien compris, les candidats autorisés ne sont pas des candidats dangereux, ce qui était le cas de Navalny. La question qui se pose, elle est de savoir son rôle dans le paysage politique actuel. Mais quelques mots, Jean Radvani, sur sur le taux de participation, qu'est-ce qui pourrait représenter un succès ou un moindre succès pour...
Eh bien, l'administration présidentielle qui organise ces élections et qui a de gros leviers de tous ordres, a dit que son idéal, c'était un système 70-70, c'est-à-dire 70% de taux de participation et 70% de votants pour Vladimir Poutine. On verra les résultats demain, mais en tout cas, déjà, la plupart des sondages indiquent que le taux de participation pourrait être plus faible. Alors, que ça veut dire plus faible ? Je rappelle que pour les élections législatives qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, le taux de participation s'est établi à 47%. C'est-à-dire on est loin de 70 quand même. Et donc on ne sait pas, et tous les sondages indiquent que dans les grandes villes, le taux de participation sera sans doute plus proche de 50 que de 70. Or, les grandes villes, c'est évidemment l'électorat important, dynamique, qui compte pour la Russie de demain. Autrement que les campagnes aux populations vieillies et dont les électeurs sont peut-être plus acquis que dans les grandes villes. Donc on va voir. On sait aussi que c'est un peu... Ça, c'est une tradition récente dans l'administration russe. C'est que les gouverneurs de régions tremblent. Parce que lors des précédentes élections présidentielles, en 2012, les quelques gouverneurs qui ont eu de mauvais résultats, c'est-à-dire un taux de participation autour de 52-53, plusieurs ont été limogés dans les semaines qui ont suivi les élections. C'est une façon, comme ça, d'inciter les gouverneurs à faire tout leur possible pour que les électeurs votent.
Quelques mots sur Navalny, son rôle dans le paysage politique actuel ?
C'est un opposant vraiment déterminé. C'est un avocat. On sait qu'il a joué un rôle important dans la dénonciation de quelques-uns des fléaux du système russe actuel, c'est-à-dire en particulier la corruption. Il a monté tout un dossier, en particulier contre le Premier ministre Medvedev, qui a marqué les esprits et qui a été vu par des millions de gens sur Internet. En même temps, c'est un personnage qui a aussi suscité quelques réserves. Il a été proche des milieux nationalistes, national-patriotes. C'est un personnage singulier. La façon dont il a été écarté de la candidature est pas très claire, puisque on utilise des arguments juridiques. Pour être candidat, il ne faut pas avoir été condamné ou dans telle et telle affaire. Or, on a monté visiblement des affaires économiques contre lui, contre son frère, et tout ça ne sent pas très bon. Et c'est en cela qu'effectivement cette dérive autoritaire de Vladimir Poutine marque encore une fois ce scrutin.
Alors, le futur mandat de Poutine, on va bien sûr en parler, il se place sous le signe de fortes tensions avec l'Occident. Avant d'aborder ces tensions, la question que j'ai envie de vous poser, c'est 6 ans de plus, pour quoi faire pour Vladimir Poutine et à quoi va ressembler son prochain mandat, Jean Radvani ?
Alors, on ne le sait pas vraiment, parce que Vladimir Poutine est quelqu'un qui, à la fois, il n'y a pas vraiment de programme. Dans son adresse au Parlement récente, début mars, il a énoncé un certain nombre de choses. Il dresse un état des lieux de la Russie qui n'est pas très bon. Il pointe beaucoup d'insuffisances au niveau de la croissance économique, de la diversification, de la modernisation, des infrastructures. Et il estime... Enfin, on comprend, son propos, c'est celui de la stabilité. En gros, c'est sans moi, le pays risque de nouveau de plonger dans l'instabilité que craignent par-dessus tout les électeurs russes. Mmh. La population russe, il faut quand même le rappeler, a été traumatisée. Un vrai traumatisme des années 90, avec une succession de plusieurs crises politiques, 91, 93, économiques, 98, 2008, 2013, 2014. Donc on a une population qui aspire surtout à ce qu'il n'y ait plus de rupture, de traumatisme de cet ordre. Et elle voit clairement, même ceux qui critiquent Vladimir Poutine sur toutes sortes d'aspects, politique économique, politique sociale ou d'autres choses, ils considèrent que Vladimir Poutine est le seul garant d'une certaine stabilité. Or, c'est de cette stabilité dont a besoin le pays pour effectivement surmonter les faiblesses très graves qu'elle a, en termes de diversification de l'industrie, trop grande dépendance envers les matières premières, le pétrole, le gaz, etc. Et puis des insuffisances criantes d'infrastructures routières, ferroviaires, de développement. Et pour ça, il faut du temps. Et je constate que Vladimir Poutine, au cours des 18 années qu'il a déjà régné, puisque déjà 3 mandats présidentiels et 1 mandat comme Premier ministre, si on peut dire, il a effectivement changé le visage de la Russie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses qui restent à faire. On a un pays qui est vraiment extrêmement diversifié, complexe, avec beaucoup de retard. Et c'est son programme, au fond, rattraper une partie de ce retard. Et est-ce qu'il fera les 6 ans à venir? On n'en sait rien, parce que les 6 ans à venir, ça va être aussi 6 années au cours duquel il va certainement tenter de mettre en place un successeur.
Ça, peut-être, c'est un peu compliqué de l'aborder maintenant avec ces risques évoqués souvent de guerre fratricide entre les uns et les autres, tellement le pouvoir entre les mains de Poutine est aujourd'hui un pouvoir extrêmement complexe, Jean Advani. Donc un successeur...
Oui, mais c'est quelqu'un d'organisé. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un d'organisé. Et donc, c'est absolument évident qu'il va quand même... Un de ses objectifs, ça va être de mettre en place un successeur qui lui convienne, qui continue le cours qu'il a introduit dans le pays. Alors peut-être qu'il essaiera plusieurs premiers ministres, peut-être, on n'en sait rien finalement. C'est un homme qui aime les surprises, il aime surprendre aussi, ça on le sait. Et ce n'est pas une chose facile, effectivement, parce que il y a, encore une fois, la Russie, c'est un pays qui n'est pas monolithique à aucun point de vue. Ni au point de vue économique, il y a des lobbies, des clans, des oligarques qui ont des... C'est un système concurrentiel, même s'il est tenu de façon très forte par le président et l'administration présidentielle. C'est un pays qui est très diversifié du point de vue économique, du point de vue des développements régionaux, etc. Donc on peut avoir des surprises, mais ça sera un de ses objectifs, indéniablement.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, Jean Radvani évoquait la question de la stabilité, Pierre connaît ça. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'influence de la politique étrangère russe sur la stabilité de Poutine ?
Écoutez, je connais beaucoup moins bien la Russie que Jean Radvani. Il est certain que de toute façon, tout pouvoir utilise la politique étrangère pour se conforter sur le plan intérieur. En particulier quand on est sur des situations de tension. On a eu un président nous-mêmes qui était totalement inepte en matière de politique intérieure et qui effectivement aimait bien déclencher des guerres puisque ça faisait remonter ses sondages. Bon. Donc ce processus-là est un processus électoral qui fonctionne même dans les dictatures ou même dans les régimes autoritaires. J'étais un peu étonné dans votre présentation parce que vous avez tout de suite annoncé que la politique extérieure de Poutine était particulièrement agressive. Moi j'ai tendance à penser que si vous voulez la politique extérieure, il faut la faire à deux, quoi. C'est-à-dire, il y a celui qui en général, qualifie l'autre d'agressif. Bon. Si je comprends bien la situation au Proche-Orient, si je me souviens bien, c'est plutôt George Bush, hein, la pagaille qui s'y situe aujourd'hui. Puis nous, on y a rajouté une couche à propos de la Libye, si vous voulez. Et donc, que Poutine, aujourd'hui, pense qu'il va encore mieux garder Assad que d'avoir un scénario supplémentaire de crise. Mais on peut penser que c'est une politique extérieure de la stabilisation plutôt qu'une politique extérieure de la déstabilisation. Donc, c'est pour ça que je me pose des questions, encore une fois, sur ce processus de fabrication de l'ennemi pour le cas russe, qui a commencé déjà il y a plusieurs années. Hein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on explique que les mafias russes sont dangereuses plus que les italiennes. Que Poutine est un ancien du KGB, c'est vrai, alors que le père Bush était patron de la CIA. Donc, si vous voulez, c'est un processus de construction de l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez toute une nouvelle génération qui, effectivement, on retrouvait en Russie. D'ailleurs, notre président, il y a quelques jours, dans Le Monde, expliquait que si la Russie nous menace, il faut qu'on la menace. C'est un processus de construction de la paix qui est assez original, je dois dire. Mais quand, regardez le simple cas de la Crimée. Tout le monde est tombé sur Poutine expliquant que c'était incroyable la sécession d'une partie d'un territoire indépendant. Je vous rappelle que la crise qu'on connaît à Mayotte est consécutive à un référendum qui s'est passé aux Comores, dans lequel la seule île de Mayotte a voté pour le rattachement à la France, et nous avons décidé que Mayotte resterait français, donc ferait sécession des Comores. Bon. Ça fait désordre quand même. Quand on fait la même chose en Crimée puis qu'on explique que les autres sont pas gentils, on a fait la même chose au Kosovo. Les Serbes l'ont suffisamment expliqué, etc., etc. Donc, cette capacité à dire que c'est l'autre qui est agressif et menaçant, j'ai même un exemple extraordinaire, si vous voulez, puisqu'on a un grand intellectuel français qui s'appelle BHL, qui a fait un jour un article dans Le Monde expliquant « Nous sommes tous des Ukrainiens » à propos des manifestations à Place Maïdan. Il précisait pas s'il parlait des Ukrainiens ukrainophones ou russophones. Donc ça veut dire qu'il y connaissait rien, mais qu'il proclamait que nous devions être solidaires de ce qui se passait en Ukraine, qui en particulier consistait à donner raison à la rue contre un président élu. Mais enfin bon, si vous voulez, tout ça, ce sont des ambiguïtés avec lesquelles on peut vivre, hein, c'est pas un problème.
BHL, alors juste pour nos auditeurs, Bernard-Henri Lévy, Jean Radvani, un commentaire sur ce que vient de dire Pierre Canessa.
Moi, je suis assez... moi aussi, je pense que la menace, ça se construit. Et que effectivement, dans cette période, il y a des forces qui jouent de cette construction de la menace. Ces forces, elles existent aussi bien en Russie qu'en Occident. C'est-à-dire que je vois pas ça comme une chose unilatérale. Je vois ça comme une chose bilatérale, effectivement. Il y a en Russie un lobby. Alors il y a plusieurs choses. D'une part, effectivement, une partie de la popularité de Vladimir Poutine tient au fait qu'il a redonné à son pays une place dans le monde et que, pour l'opinion publique russe, c'est quelque chose de très important. Que son pays soit de nouveau écouté et pas seulement poussé dans ses retranchements, comme voulait Brzezinski, comme voulaient les Américains, c'est-à-dire « to roll back ». Repousser l'influence russe. Et les Russes ont vécu ça comme une partie du traumatisme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que une partie des actions de politique étrangère de Vladimir Poutine est destinée à la fois à l'opinion intérieure et à l'extérieur pour montrer que ça suffit, on a assez reculé, il faut tenir compte de nos intérêts. Sinon, il n'y aura pas d'équilibre possible et il n'y aura pas de stabilité.
Vous pensez à quels événements précis, Jean Radvani ?
À l'expansion de l'OTAN, à la situation en Ukraine, qui effectivement est complexe, mais dans laquelle moi je ne vois pas que la main de Moscou. Il y a quand même un certain nombre de pays européens qui ont, depuis quelques années, qui militaient pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, qui est une des lignes rouges russes. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec cette ligne rouge, mais peut-être qu'il vaut mieux en discuter que de placer les Russes devant un fait accompli qu'ils rejettent. Voilà. Et d'autre part, il y a un lobby militaire russe. Mmh. Ce lobby militaire russe, comme le lobby militaire américain, il a besoin de la menace pour demander plus d'argent, plus de nouveaux types d'armes, etc., etc. Et donc, il y a cet engrenage. Moi, j'ai été frappé par... On parle beaucoup de Londres en ce moment, parce qu'il s'y est passé un événement tragique, mais moi, j'ai été frappé par un documentaire qu'avait produit la BBC, qui s'appelle « In the War Room », dans la chambre de guerre, qui est vraiment, pour moi, le modèle de la construction de cette menace et de cette agressivité. C'est-à-dire que ce documentaire, c'est une heure, un docu-fiction. Il part d'une situation totalement hypothétique, mais qui pourrait exister. Ou en tout cas, voilà. Il s'agit des minorités russes du sud de la Lettonie que, soi-disant, Moscou, le Kremlin, agiterait, instrumentaliserait. Et de fil en aiguille, à partir de cet événement local, on aboutit à une guerre nucléaire, à la Troisième Guerre mondiale. Et ce docu-fiction, je vous invite les auditeurs à le voir, on peut le trouver facilement sur YouTube, il est exemplaire de la façon dont, je crois, certains lobbies occidentaux construisent patiemment cette menace et cette agressivité russe. Or, malgré tout, les Russes n'attaquent pas les pays baltes. Mais du fait de cette situation... Au sommet de Varsovie en juillet 2016, l'OTAN a décidé d'installer un bataillon dans chacun des États baltes, plus un bataillon en Pologne. Et évidemment, les Russes réagissent à cela. C'est-à-dire, après, on peut dire qui a commencé, qui a été le premier avec une phrase particulièrement agressive. Et alors là, entre les stratèges russes et Monsieur Trump, on ne sait plus vous donner de la tête.
Alors justement, et malheureusement, on manque peut-être de temps pour terminer cette première partie d'émission, mais revenir peut-être sur les événements et dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Ingérence russe supposée, en tout cas, qui se confirme tout de même de plus en plus dans la campagne électorale américaine. Vous parliez de l'événement au Royaume-Uni, mais il y en a eu plusieurs. Alors là aussi, la responsabilité est encore à prouver. Ce qu'on voit tout de même, c'est des gouvernements britanniques qui ont été assez réticents à prendre des mesures pour contre-attaquer, ou de certaines manières, en tout cas des mesures de rétorsion. Idem pour Trump. Il sera intéressant dans la deuxième partie de l'émission de voir un petit peu si l'on doit qualifier les relations aujourd'hui entre la Russie et l'Occident de nouvelle guerre froide. Nous retrouvons nos invités géopolitiques depuis Grenoble, Jean Radvani et Pierre Canessa, dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Russie à la veille de l'élection présidentielle et les relations entre la Russie et l'Occident, particulièrement les États-Unis. Nous retrouvons nos invités, Jean Radvani, géographe, professeur des universités à l'INALCO, auteur de « La Russie entre peur et défi », ouvrage co-écrit avec Marlène Laruelle et paru chez Armand Collin, et Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires, auteur de plusieurs ouvrages dont « La fabrication de l'ennemi » paru aux éditions Robert Laffont. La question des relations entre la Russie et les États-Unis, il y a eu un certain enthousiasme et des attentes suscitées en Russie par l'élection de Donald Trump, après une dégradation forte des relations sous Obama. Cet enthousiasme et ces attentes se sont finalement rapidement évanouies. Le constat est sans doute à faire que la Russie n'est pas la priorité de la politique étrangère américaine. Il y a aujourd'hui les soupçons de l'ingérence de Moscou dans les élections américaines, les liens supposés dans l'entourage proche du président avec la Russie qui entrave réellement sa marge de manœuvre. Aujourd'hui aussi, la question d'assassinat au Royaume-Uni. Est-ce que l'on peut dire que les relations entre la Russie et l'Occident nous rappellent la période de guerre froide de Pierre Conessa?
Je reviens juste une minute sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la fabrication de l'ennemi. Des proches avaient une très bonne définition de l'ennemi. Ils disaient l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. Et ça vous montre comment se construit la dialectique d'une préparation à une crise majeure, voire à la guerre. Et c'est vrai que vous avez des deux côtés des gens qui sont d'accord pour représenter l'autre comme une espèce de menace, de risque, etc. Bon. Je vous prends l'exemple de l'ingérence russe dans les élections américaines. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a découvert que la NSA écoutait Madame Merkel.
Bon. Les services américains.
Les services américains écoutaient Madame Merkel, la chancelière allemande. Et on se dit, mais attendez, je comprends pas bien. Quelle est la menace aujourd'hui si on parle de véritablement intrusion dans la vie politique des pays démocratiques? Et puis ensuite, si les Américains sont assez stupides pour que les Russes arrivent à changer l'ordre d'une élection, je suis en train de me demander si dans le monde des fake news dans lesquels on vit, si ce sont les Russes qui en diffusent le plus. Donc si vous voulez encore une fois prendre cet exemple-là, pour expliquer que c'est inadmissible, ça a été une ingérence russe dans les élections, etc. Alors qu'on a effectivement en face ce que disait Jean Radvani, c'est-à-dire un OTAN qui est resté la seule constitution militaire, structure militaire opérationnelle à la surface de la planète, qui continue à avancer ses pions pour entourer la Russie, on est dans le domaine des perceptions. Il faudrait juger les faits plutôt que les perceptions. Or, on est effectivement dans quelque chose qui est un processus de dégradation des relations bilatérales. La discussion entre M. Macron et M. Hollande est extrêmement intéressante. Quand Hollande disait « la Russie nous menace, il faut la menacer », et puis Macron répondait en disant « mais attendez, quand vous n'avez pas parlé avec la Russie, est-ce que vous avez améliorer la situation internationale ? Donc il est dans un processus diplomatique. La diplomatie, c'est fait pour parler avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Si on parle avec les gens avec lesquels on est d'accord, on paye des diplomates pour rien. Et donc on est dans cette situation étonnante où on va accuser celui qui veut détendre l'atmosphère ou celui qui veut en faire une espèce de démarche, encore une fois, de consultation, de prise en compte des intérêts de l'autre, etc. La perception russe est extrêmement importante. Je reviens juste une minute sur ce que disait Jean Radvani. La colonisation russe a été une colonisation de continuité territoriale. La décolonisation russe a été d'autant plus traumatisante qu'elle était une décolonisation de la discontinuité territoriale. C'est-à-dire, tout à coup, vous aviez ce territoire de l'URSS qui se rétractait de je ne sais combien de milliers de kilomètres. Tous ces phénomènes-là sont des perceptions qui ensuite ont annoncé la difficulté de l'époque Yeltsine, etc. Donc, tous ces événements-là sont extrêmement importants à prendre en compte pour qu'on discute avec des gens dans lesquels le leader actuel, quoi qu'on en pense, est effectivement quelqu'un qui essaye de reconstruire une espèce de confiance de la Russie en elle-même. Est-ce qu'elle est menaçante ou pas? C'est l'intelligence du diplomate que d'arriver de l'expliquer.
En tout cas, si j'entends ce que vous venez de dire, Pierre Conessa, la dégradation des relations entre la Russie et l'Occident, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir qui est le plus responsable de cela. Et vous trouvez que les responsabilités, d'une certaine manière, sont largement partagées.
Moi, je trouve, si vous voulez, étonnant ce qu'a rappelé tout à l'heure Jean Radvani, c'est-à-dire cette politique du rollback. Vous vous souvenez, cette volonté de faire reculer la Russie en 91. Je me souviens d'y souvenir, je crois qu'il était écrit par Clark, l'ancien patron de la CIA, qui pour la première fois rencontre Condi Rice et lui explique ce que c'est Ben Laden. On est avant 2001. Elle dit non mais ça m'intéresse pas, c'est la prégnance des soviétologues, si vous voulez, le véritable objectif stratégique c'est de refaire refluer la Russie. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où encore une fois, il y a une espèce d'imposition politique sur la définition de l'ennemi. Bon, moi, j'ai toujours tendance à penser bêtement, probablement, que c'est plus l'Arabie Saoudite que la Russie qui est responsable des 290 morts et 800 blessés dans les rues de Paris. Mais peut-être que probablement je me trompe. Vous voyez, donc on est dans, encore une fois dans cette phase de reconstruction. Personne n'envisage de mettre l'Arabie Saoudite sous embargo aujourd'hui.
Jean Radvani.
Moi, je pense qu'on est entré dans un cycle de longue durée qui va être extrêmement tendu entre la Russie et les États-Unis. Et pas seulement parce que il y a l'Ukraine, il y a la Syrie. Je crois que c'est plus fondamental que ça. Je pense que, pour rejoindre le thème de ce festival, les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui affaiblis pour des raisons internes et externes, et c'est le slogan de M. Trump. Il veut soit redonner la force des États-Unis ou en tout cas la maintenir, c'est-à-dire maintenir l'influence que les États-Unis ont su conquérir après la Seconde Guerre mondiale, influence qu'ils étendent sur le monde entier. En gros, la sphère d'intérêt des États-Unis, c'est le monde. Et la Russie, dans ce cadre-là, on n'est plus dans la guerre froide, on est dans un autre monde qui n'est pas défini et qui donc est instable et dangereux. On est à un monde multipolaire où chacun des pôles, et ils sont nombreux par conséquent, ce n'est plus ni que les États-Unis ou que les États-Unis et l'URSS ou la Russie, c'est d'autres qui n'ont pas de rôle défini et qui chacun, dans cette situation, cherche à défendre ses propres intérêts. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est peut-être l'Union européenne si un jour elle arrive à s'entendre, je n'en suis pas sûr. Et donc, on est dans cette situation. Ça implique beaucoup de choses. Ça impliquera sans doute de redéfinir le rôle de l'ONU. Ça implique de redéfinir le rôle de l'OTAN. Ça implique de redéfinir les accords de Bretton Woods, donc le rôle du dollar. Mmh. Ce sont ces choses-là qui sont d'actualité, qui sont au calendrier. Et c'est de ça que parle Poutine. Or, nous, Européens, pour l'instant, en gros, on ne veut pas entendre ces questions. On fait comme si ces questions n'étaient pas posées. Et c'est grave. Et c'est grave parce que on se laisse aller dans ces problèmes de perception. On laisse les médias construire ces menaces et cette agressivité. Et au bout du compte, on ne parle pas des vrais problèmes.
Alors, menaces et agressivité, on assiste à un accroissement des sanctions. Est-ce que la situation aujourd'hui entre la Russie et l'Occident vous paraît dangereuse, Pierre Conessa?
Ah oui, la situation me paraît effectivement dangereuse. Mais pour revenir sur le descriptif de la situation que fait Jean Radvani, n'oubliez pas un autre ennemi qu'on est en train de construire, c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, quand il vous parle des routes de la soie, vous avez l'impression que c'est une espèce d'autoroute qui va faire débarquer des milliards de Chinois sur le continent européen, je veux dire. On est dans une espèce de délire absolu pour les raisons que vous évoquiez, c'est-à-dire on refuse de repenser le monde tel qu'il est aujourd'hui parce que, relisez n'importe lequel des télégrammes français, vous commencez toujours par dire « la France ment permanent du Conseil de sécurité ». Une fois que vous avez dit ça, ça veut dire bon, la France a des responsabilités qu'elle n'a plus les moyens d'assumer. Et donc elle pédale derrière les États-Unis pour essayer de montrer qu'elle est toujours cette fonction. Donc, encore une fois, repenser le monde, c'est-à-dire penser qu'il n'y a pas de représentant du monde arabe permanent du Conseil de sécurité, penser que l'Inde ne fait pas partie du Conseil permanent, des membres permanents du Conseil de sécurité. Je veux dire, c'est une révision extraordinaire dont on ne veut pas, parce qu'on dit si jamais on repense la puissance en fonction en particulier de l'importance économique ou démographique, on va être évincé. Bon. Mais ça, c'est les carences de l'Europe. L'Europe est incapable de se penser elle-même comme une entité politique. Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à construire la défense européenne et donc à faire une politique extérieure européenne, c'est parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les manières de résoudre les crises. Nous, on considère que notre sécurité va se jouer au Sahel et en Syrie. Les Scandinaves sont pas du tout convaincus que leur sécurité se joue au Sahel et en Syrie. Et donc, on est sur des concepts stratégiques qui sont totalement différents. Et à partir de ce moment-là, l'Europe fait une toute petite voie qui passe pour l'essentiel entre les Français et les Anglais.
Jean Radvani, vous souhaitez réagir?
On est dans une situation dangereuse parce que en Syrie, par exemple, il y a de vrais combats. La Russie soutient un régime exécrable et ça aura des conséquences sur l'image de la Russie. On ne peut pas impunément soutenir le régime de Bachar el-Assad dont on sait que depuis son père, c'est une vieille histoire, il massacre sans vergogne son propre peuple. Mais en même temps, c'est une situation politique extrêmement compliquée dans laquelle les systèmes d'alliance sont disputés. Et donc, chacun porte des responsabilités, mais le fait que le chef d'état-major russe, il y a quelques jours, mette en garde les Américains s'ils bombardent une partie de Damas, or, c'est pas une menace complètement en l'air, parce que quand même, les Américains ont bombardé Belgrade. Pourquoi ne bombarderait-il pas Damas? Sauf que les Russes disent, si vous faites ça, on réagira, et on a les moyens de réagir. Là, on est dans du concret. Là, c'est quelque chose qui se passe sous nos yeux, et peut-être quand même qu'il faudrait justement revenir sur les questions politiques et essayer de démêler cet écheveau dans lequel effectivement les interventions extérieures, les ingérences nous ont mis au Proche-Orient.
En tout cas, deux hommes forts, l'un à Washington, l'autre à Moscou. Autant dire que si l'un et l'autre souhaitaient rétablir de la fluidité dans la relation entre la Russie et les États-Unis, c'est un travail plutôt difficile, Pierre connaît ça.
Ah, c'est un choc de titan, vous voulez dire, oui. C'est-à-dire, vous avez effectivement un personnage qui est probablement très froid, très calculateur, en tout cas qui a construit sa carrière politique, si vous voulez, avec une très grande expérience à la fois dans les services de renseignement, mais aussi dans le monde politique, puisque rappelez-vous que c'était quand même un outsider quand il est nommé. Personne ne lui donnait une chance de survivre. Bon. Et puis en face de ça, vous avez un individu qui a fait fortune. Bon, il était un peu milliardaire au départ quand même, donc c'est plus simple d'être plus super milliardaire quand on est milliardaire jeune. Et puis qui arrive à la politique avec l'idée que c'est un business dans lequel on va donner des ordres, on va faire des changements de pied, on va faire des fans de corps, etc. Et qui est un individu totalement imprévisible. Il est d'autant plus imprévisible que, rappelez-vous, qu'il fait sa campagne contre le fait que la fondation Clinton reçoit de l'argent de l'Arabie Saoudite, et puis ensuite il va en Arabie Saoudite pour dire que le terrorisme c'est l'Iran. Pour nous Européens, si vous voulez, c'est un peu difficile à entendre. Vous avez le même individu qui va ensuite vous diaboliser, un chef d'État quel qu'il soit, qui va vous construire un ennemi chinois, dont je vous rappelle que depuis 1949, elle n'a fait qu'un seul conflit. C'est-à-dire que vous avez là la construction d'un péril jaune totalement artificiel. C'est la guerre contre l'Inde, c'est tout. Par contre, alors prévoir que le péril jaune va déborder et qu'il va effectivement arriver par la route de l'Assad, tout ça, ce sont des constructions vis-à-vis desquelles il faut prendre ses distances. Le problème, c'est qu'effectivement, on est en train de vivre, j'espère, les derniers feux de nos néoconservateurs nationaux, qui ont 20 ans de retard sur les néoconservateurs américains, et qui sont encore, pour certains, dans les sphères de pouvoir. Et ça, malheureusement, à part une relève générationnelle ou une bombe à neutrons qui tue les êtres vivants et garde le capital, je ne vois pas aujourd'hui comment on va vider, si vous voulez, à la tuyauterie. Macron a l'air de vouloir le faire. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il se met en rupture vis-à-vis de ce suivisme qui nous a caractérisés depuis Sarkozy et depuis François Hollande.
Choc des titans. Jean Radvani, vous souhaitez rajouter quelque chose? Et après ça, on passe à quelques questions, puisque nous sommes en public à Grenoble, dans un amphithéâtre.
Non, c'est vrai que c'est difficile parce que on a deux personnalités très différentes, mais qui d'une certaine façon ont des points communs sur leur façon extrêmement volontaire et passionnée de traiter les questions, et c'est pas forcément la chose la plus recommandable pour aller vers une vraie négociation politique. En tout cas, on en est loin pour l'instant.
Des questions, monsieur.
Bonjour Hervé. Passionné de géopolitique, alors je voulais connaître l'avis de nos deux intervenants concernant l'empoisonnement supposé de Moscou, parce que si j'en crois les médias occidentaux aujourd'hui, cela ne fait plus de doute avec la main de Moscou. Donc j'aimerais savoir la pertinence en fait d'un tel acte, surtout si on présente Monsieur Poutine et la Russie comme étant froid calculateur. Merci.
Jean Radvani.
Je ne sais pas si on aura un jour le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire si on saura un jour qui a mis cette substance chimique visiblement créée à l'époque soviétique, mais dont on ne sait pas très bien où sont les stocks, et on ne sait pas très bien qui l'a apporté et comment on s'en est servi. On ne peut rien exclure. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un certain nombre d'exemples où le Kremlin ou des milieux russes ont éliminé, on pense à Kadyrov ou Tchétchène, ont éliminé des ennemis jusqu'à l'étranger, enfin des ennemis, des traîtres, des gens gênants, jusque dans des pays étrangers. Donc ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu non plus la thèse russe, c'est-à-dire une provocation à la veille des élections et surtout à la veille de la Coupe du Monde. Or, on sait que le président russe tient beaucoup à ce que cette Coupe du Monde, qui va se tenir dans quelques semaines, se passe dans des bonnes conditions. Donc voilà, on est dans cette situation et dans ce contexte qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire où on a ces rhétoriques de la menace et de l'agressivité qui font que, bien sûr, on se sert de cet argument pour développer une nouvelle ligne de sanctions. On va voir jusqu'où ces sanctions s'appliquent et comment va réagir aussi le nouveau président Poutine dès qu'il sera élu demain.
Pierre connaît ça.
Moi, je suis frappé du changement des règles de fonctionnement des services de renseignement. Pendant la guerre froide, les rapports étaient codés. C'est-à-dire, j'attrape un espion de chez vous, je le condamne, éventuellement, à la fin, on l'échange contre un espion de chez vous qui a été arrêté là-bas. Bon. Et donc, vous aviez ce pont qui a toujours resté ouvert au sud de Berlin, dans lequel on procédait parfois à des échanges. Bon. Donc, l'espion avait un statut, en quelque sorte, dans les relations internationales. Depuis, on fait des assassinats, et en particulier avec Litvinenko, et maintenant, aujourd'hui, effectivement, cet ancien officier du KGB, qui est assassiné d'une façon visible. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part l'idée de se dire à tous les anciens qui ont été en quelque sorte débauchés après 91, vous vous tenez tranquille. Parce que quand même, on n'a pas reconstruit totalement le FSB à partir de rien. Il y a eu tout un héritage du KGB. Et donc tous ces gens-là ont une connaissance des mécanismes de fonctionnement des services russes qui font que probablement ils ont appris beaucoup de choses aux services occidentaux. Et donc une manière de les faire taire, c'est de rappeler comme ça par une piqûre de rappel à un individu que, et en signant, si vous voulez, l'assassinat, que quand même on n'est pas revenu à la situation de la paix universelle. Maintenant, il y a une autre marque aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que le FSB a beaucoup travaillé aussi avec les mafias russes. C'est plutôt un crime mafieux, si vous voulez, qu'un crime de service de renseignement. C'est-à-dire l'idée qu'un mafieux, c'est on fait savoir publiquement qu'on ne touche pas, si vous voulez, à vos intérêts. Bon. Donc comment ça s'est fait précisément, je n'ai pas d'idée, mais je suis un peu frappé du fait qu'effectivement, dans le temps, on assassinait plutôt discrètement, quand on faisait un accident de voiture, ou on tombait d'un pont, ou une chose comme ça, mais pas comme ça.
Une autre question, monsieur.
Bonjour, Boris Moraliam, professeur en classe préparatoire au lycée Notre-Dame-de-Sion à Marseille. Il me semble qu'on parle de mission civilisatrice, on parle de destinée manifeste qu'en Occident. Et donc je me demande si finalement l'ennemi, c'est pas l'Occident, alors que la Russie et la Chine ont plutôt des logiques de protection de leur territoire, même si ils prévoient des glacis. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre opinion sur cette question.
Pierre Conessa.
Bah, vous avez raison, c'est vrai que l'expansion économique et politique de l'Occident s'est faite par la colonisation extérieure. La Russie aussi a suivi un processus comme celui-là. La Russie et la Chine sont des pays qui ont connu des traumatismes très profonds, dont Jean a expliqué la caractéristique pour ce qui concerne la Russie, mais la Chine était exactement dans la même situation. Et donc, l'idée que le pays se reconstruit sur l'intérieur, si vous voulez, avant de projeter des éléments de puissance à l'extérieur, me paraît assez classique. Il faut pas oublier quand même que, encore une fois, c'est nous qui allons faire la guerre à l'extérieur. C'est nous qui avons militarisé toutes les crises depuis 91. Nous, j'entends nous, occidentaux, évidemment. On a même militarisé l'humanitaire, quand même, en Somalie, ce qui est quand même une originalité. Donc, rappelez-vous cette espèce de tropisme militarisé qui s'est créé en Occident après 91 à cause de ce sentiment d'unilatéralisme et d'extrême puissance des Américains et des Occidentaux.
Une dernière question, monsieur.
Oui, je voulais simplement vous demander, vous disiez tout à l'heure que, finalement, monsieur Macron ne restait pas dans les pas de ses prédécesseurs, c'est-à-dire suivisme vis-à-vis des États-Unis. Je me permets quand même un petit peu d'être interrogatif vis-à-vis de ça. Et alors, mais la question ne porte pas là-dessus. Elle porte sur l'absence totale de l'Europe, ou je dirais presque d'un médiateur entre les tensions que vous évoquiez tout à l'heure, entre la Russie et puis les États-Unis. Et on ne voit pas d'autres médiateurs entre les deux grandes puissances au niveau des tensions qui pourraient s'aggraver.
Jean-Rad Vanille.
Je crois qu'il faut tenir compte que l'Union européenne est profondément divisée sur toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on a des groupes de pays qui ont des histoires différentes, qui ont des relations à la Russie différentes. Et du coup, on a quelques pays qui poussent dans le même sens que poussait Brzezinski. C'est-à-dire qui veulent, par exemple, intégrer le plus rapidement possible l'Ukraine à la fois à l'Union européenne et à l'OTAN. Et qui pousse à la confrontation avec la Russie sur ce plan. Alors que d'autres, au contraire, sont peut-être plus conscientes de la réalité de la situation en Ukraine et plus conscientes aussi que est-ce qu'on a intérêt sur le continent européen à ignorer complètement les intérêts russes, même si ces intérêts russes ne sont pas les nôtres, bien entendu. Sauf que si on veut concilier les intérêts et assurer une certaine sécurité en Europe, il faut quand même bien discuter de nos intérêts et de leurs intérêts.
Pierre Conessant, en guise de conclusion.
Bah écoutez, revenez sur cette histoire de sanctions, c'est absolument prodigieux. À propos de l'affaire de la Crimée, on décide des sanctions. A-t-on jamais imaginé de provoquer des sanctions sur les États-Unis après l'invasion de l'Irak ? Donc on est dans un système de deux poids, deux mesures. Et l'idée qu'on adopte des sanctions contre la Russie, c'est un processus de construction de l'ennemi. Donc voilà, on dit, regardez, on a de la puissance puisque celui-là, on peut le punir.
Merci, c'est la fin de Géopolitique enregistrée à Grenoble dans le cadre du Festival de Géopolitique. Merci à nos invités, Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires, auteur de plusieurs ouvrages dont La fabrication de l'ennemi chez Robert Laffont, et Jean Radvani, géographe, professeur des universités à l'INALCO, également auteur de plusieurs ouvrages dont La Russie entre peur et défi, coécrit avec Marlène Laruelle et paru chez Armand Collin. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair. Depuis Grenoble, Nathalie Laporte et Véronique Durand à Paris. Demain, Géopolitique posera la question du déclin ou non de la puissance.